Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vous voulez boire quelque chose ?
S'il vous plaît. Et c'est Kiki ?
Kiki ? Qui ?
C'est pas vrai ! C'est Kiki, mon ancien grand.
En recyclant avec Ecosystem, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique ?
Ecosystem. Le plus simple, c'est de recycler.
Titine. Louloute.
Kiki cassé, Kiki jeté, mais Kiki... recycler. Les spots télévisés d'Ecosystem visaient juste. On voudrait bien d'un monde où les objets s'appellent revient. Ou plutôt que de les broyer ou de les envoyer loin de nos yeux, on les transforme en quelque chose de neuf. On voudrait bien de cette boucle, vertueuse, et pas que pour des raisons affectives. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va aborder au fil de 3 épisodes les enjeux de l'économie circulaire, qui a de grands potentiels, mais aussi pas mal d'obstacles.
Il y a de l'or dans nos poubelles, on le dit souvent, mais il y a aussi des centaines de milliers d'emplois. Un rapport de l'Institut de l'économie circulaire estime qu'en consommant moins, on peut employer plus. Cette enquête montre que le recyclage, le reconditionnement, la réparation des objets en fin de vie, la réutilisation des matériaux et aussi la conception écologique des produits permettraient de donner du travail à 440 000 personnes en France d'ici 2030.
Recycler, reconditionner, revaloriser plutôt que de jeter. C'était un réflexe hier, c'est aujourd'hui une idée qui a de l'avenir. Pour valoriser les poubelles, les idées ne manquent pas, comme celle de la start-up Capilum qui extrait des mèches récupérées dans les salons de coiffure la kératine qui sert comme ingrédient pour la cosmétique ou pour la chirurgie réparatrice. L'ADEME, l'agence de la transition écologique en France, parle même du déchet comme d'un gisement de matériaux et d'énergie. Recycler, ça sonne donc comme un vœu, comme une solution à pas mal de nos maux économiques et environnementaux. Mais est-ce que c'est si évident que ça ? J'ai posé la question à Myriam Chauveau, la spécialiste de ces sujets aux Échos.
Alors là, déjà, il faut distinguer recyclage et valorisation, parce qu'on entend souvent parler du fait que les déchets sont valorisés. Il faut savoir que quand on parle de valorisation, ça n'est pas la même chose que le recyclage. Ça inclut le recyclage, mais ça inclut également ce qu'on appelle la valorisation énergétique, c'est-à-dire l'incinération avec récupération de chaleur. Un exemple, le plastique. La France ne recycle que environ un quart de son plastique, 24%. Seulement 24% des déchets plastiques en France sont recyclés. En revanche, sur le solde, sur ce qui n'est pas recyclé, elle fait une valorisation énergétique pour 43% des déchets plastiques collectés, c'est-à-dire une incinération, et elle met en décharge environ un tiers des déchets plastiques collectés. Donc au total, on peut dire que les deux tiers du plastique collecté sous forme de déchets sont valorisés. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont recyclés. Elle ne recycle que 24%. Et dans les pays qui veulent l'indépendance énergétique, on peut préférer la valorisation énergétique des déchets au recyclage. Donc, faut faire le distinguo entre les deux concepts. Par ailleurs, dans le recyclage, il faut distinguer ce qui est circulaire de ce qui ne l'est pas. Toujours sur l'exemple du plastique, c'est le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Et plus de 80% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'un an. Et ces déchets plastiques, ça n'est pas la même chose si vous les transformez dans le même produit que ce qu'il était à l'origine. Par exemple, vous transformez les vieilles bouteilles en plastique en nouvelles bouteilles en plastique. Là, c'est circulaire. Vous faites le même objet. Ça n'est pas du tout la même chose que de transformer ces déchets plastiques en objets différents. Si vous transformez vos vieilles bouteilles en plastique en arrosoir, ça n'est plus du circulaire, c'est un recyclage dégradé. Ou si vous en faites des tongs en envoyant les déchets plastiques en Asie. Or, c'est souvent ce qui se passe. C'est du recyclage du plastique, mais pas forcément du circulaire. Enfin, il ne faut pas oublier non plus que même si on transforme les vieilles bouteilles en plastique en nouvelles bouteilles plastiques, ça n'a qu'un temps. Le plastique ne se recycle que 6 ou 7 fois dans le meilleur des cas. Après, c'est terminé. Ou alors, il faut passer au recyclage chimique, qui est une industrie encore embryonnaire et qui coûte cher.
On l'entend, il y a donc un vrai potentiel économique dans la circularité des déchets. Est-ce que c'est un secteur en plein boom ?
À 15 ans, le secteur du recyclage sera très probablement porteur. Mais aujourd'hui, le présent est difficile. Le recyclage est un secteur qui subit des cycles courts et violents. Le bilan qui avait été fait à l'automne 2020 par la Fédération des recycleurs, FEDEREC, montrait que plus d'un quart de l'activité avait été perdue en 2 ans, donc en 2018 et 2019. Et 4 acteurs interrogés sur 5 prévoyaient une diminution de leur chiffre d'affaires en 2020 de l'ordre de 20%. Avant même la crise sanitaire, le chiffre d'affaires des 1200 entreprises françaises du secteur du recyclage avait reculé de 6% en 2019 à 8,5 milliards d'euros parce que les prix de revente des matières avaient baissé tandis que les tonnages de déchets collectés stagnaient. Les effectifs, eux, avait reculé en 2019 de 1%. Et à l'automne 2020, FEDEREC observait que certaines filières comme les papiers-cartons ou les plastiques étaient, début 2020, au bord de la rupture.
La survenue de la crise sanitaire, est-ce que ça a contrarié ou contribué au secteur ?
Est-ce que le Covid a aidé le recyclage ? La réponse est oui et non. En fait, dans un premier temps, non. Pas du tout, au contraire. En 2020, le Covid a beaucoup compliqué la situation du recyclage. Au premier confinement, en mars 2020, en France, il y a eu un arrêt des centres de tri sélectif dans beaucoup d'endroits. Et évidemment, il y a eu aussi une baisse de l'activité industrielle, donc moins de demandes des industriels pour des matières recyclées à réincorporer dans leur production. Donc, pour l'essentiel des filières de recyclage, il y a encore 6 ou 9 mois, ça allait très mal. Alors depuis, la situation a changé et est là, encore une fois, à cause du Covid. L'effet négatif de la crise Covid est devenu un effet positif et aujourd'hui, le Covid aide le recyclage. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie redémarre et le redémarrage est trop fort. Il y a pénurie de matière et ça aide les matières recyclées. Tout le secteur du recyclage bénéficie aujourd'hui de cette remontée générale du prix et de la demande pour les différentes matières dans un contexte de relative pénurie. Et là, effectivement, la crise sanitaire aide.
C'est une traque aux déchets venus de l'étranger qui s'organise dans tous les ports de Chine. Ici, désormais, tous les camions passent même au rayon X. Car depuis le début du mois, Pékin ne souhaite plus recycler ses rebuts envoyés par containers entiers. Les sanctions seront exemplaires.
On l'a entendu dans cette archive de 2018, la Chine ne veut plus de nos déchets. Qu'est-ce que ça dit de notre gestion et est-ce que ça bouleverse les équilibres dans l'économie circulaire ?
La Chine, traditionnellement, avalait la vaste majorité des déchets de l'Occident. Papier, carton, plastique, etc. Mais depuis quelques années, c'est terminé. Elle a suscité une crise mondiale du recyclage à partir de 2018 parce qu'elle a fermé ses frontières aux déchets occidentaux. Elle a décidé qu'elle n'était plus la poubelle du monde. Et l'Asie du Sud-Est commence à faire la même chose, parce que, évidemment, la Chine refusant les poubelles de l'Occident, on a essayé de les envoyer au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, etc. Mais pareil, ils n'ont pas une capacité d'absorption énorme, donc ils restreignent. Alors, à partir du moment où l'Asie n'est plus un exutoire et n'accepte plus nécessairement tous les déchets de l'Occident, il faut absolument qu'il y ait une demande en Europe pour ces déchets. Et pour ça, il faut que l'Europe développe son industrie du recyclage au lieu de se contenter d'envoyer ses poubelles pour être triées et recyclées ailleurs. C'est tout l'enjeu. Et quand la Chine a fermé ses frontières, ça a été un révélateur. On s'est aperçu soudain qu'on manquait d'industrie de vrai recyclage en Europe. Cela dit, aujourd'hui, on commence à avoir un développement de cette industrie du recyclage en Europe parce que l'Europe est obligée de se prendre en charge puisque la Chine n'accepte plus ses poubelles. Mais l'Asie reste toujours aujourd'hui la zone de fabrication des nouveaux objets en plastique, par exemple. Donc aujourd'hui, au lieu d'envoyer des déchets de plastique en Chine, on lui envoie du plastique déjà recyclé sous forme de granulés à réutiliser. Mais c'est toujours l'Asie du Sud-Est qui transforme ces granulés de plastique en nouveaux objets, des semelles Nike par exemple. Tout l'enjeu à terme pour une vraie circularité locale, ça va être pour l'Europe non seulement d'avoir une industrie du recyclage, mais d'avoir une industrie tout court, de relocaliser son industrie pour avoir une demande des industriels qui soit locale, basée en Europe.
Donc il pourrait y avoir aussi dans ce secteur une vraie question de relocalisation finalement. Mais de notre côté, est-ce qu'il y a un intérêt économique suffisant à utiliser les matériaux recyclés ?
Non, il n'y a aujourd'hui pas nécessairement d'intérêt économique à utiliser de la matière recyclée, et c'est tout le problème du secteur du recyclage. Alors, d'une manière générale, les problèmes commencent quand le cours mondial de la matière vierge est très bas. On peut prendre par exemple l'acier et ses déchets qu'on appelle la ferraille. Il y a eu des moments où le cours mondial de l'acier était très bas et où il n'y avait pas nécessairement de preneur pour la ferraille. Les coûts de collecte, de tri et de recyclage des déchets sont fixes, contrairement aux cours mondiaux des matières premières qui sont très volatiles, qui peuvent monter très haut et descendre très bas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand la matière vierge coûte moins cher que la matière recyclée ? C'est ça le problème. Et c'est là que les ennuis commencent, quand les cours des matières premières vierges s'effondrent. Et là, ça pose des problèmes, même pour les matériaux où normalement la circularité fonctionne bien en théorie.
Par exemple, quels sont ces matériaux et pourquoi leur circularité fonctionne-t-elle déjà bien ?
Disons qu'il y a des matériaux où la collecte et le recyclage sont au point techniquement. C'est le cas du verre, des métaux ou encore du papier carton. On le voit d'ailleurs, ce sont les matériaux qui ont le plus fort taux de collecte. On observe au niveau mondial qu'en moyenne, dans le papier qu'on utilise, il y a 55% de fibres recyclées. C'est déjà pas mal. Par comparaison, pour les emballages plastiques, il y a en moyenne 15%. C'est nettement moins. Et puis pour le verre effectivement est un exemple où la collecte et le recyclage sont au point. Mais là, la circularité, ce serait plutôt de réutiliser les bouteilles en verre que de les recycler. Il vaudrait tout de même mieux avoir une consigne des bouteilles en verre, les laver, les réemployer, telles quelles, que de les casser et d'en refaire du verre en fusion. Ce serait mieux. Donc même sur les filières au point, on dira qu'elles ont la mention « peut mieux faire ».
Myriam, comment peut-on mieux faire ? Comment soutenir et permettre à la circularité de se développer ? Est-ce que c'est une question de volonté, de moyens ou de réglementation ?
Alors, on connaît les conditions pour que la circularité fonctionne bien. Dans l'immédiat, on a mis une rustine. Il faut une subvention aux matières recyclées quand le cours mondial de la matière vierge est trop bas et que la matière recyclée coûte plus cher aux industriels que la matière vierge. Pour encourager les industriels à acheter quand même de la matière recyclée alors que le cours de la matière vierge est plus bas, on subventionne les recycleurs. Ça a été le cas dans le plastique. Parce que dans le plastique, à chaque fois que le cours mondial du pétrole est bas, le plastique recyclé coûte plus cher que le plastique vierge. Et donc, il ne trouve pas preneur. Donc, on a mis en place, ces dernières années, une subvention au recyclage du plastique, mais c'est une rustine. Au-delà de cette rustine, pour résoudre le problème de manque de demande pour les matières recyclées, dans cet exemple, pour le plastique recyclé, l'Europe a mis en place, pour les bouteilles en plastique, ce qui va être à terme la grande solution pour tout le secteur du recyclage. L'Europe a imposé l'obligation d'incorporer de la matière recyclée dans les objets en plastique. Alors, plus exactement, pour l'instant, l'Europe a imposé l'incorporation obligatoire en 2025 d'au moins 25% de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique PET transparentes, typiquement les bouteilles d'eau minérale. Et puis, en 2030, ça va monter à 30% de plastique recyclé pour toutes les bouteilles en plastique. Alors, ça règle le problème de concurrence entre les matières vierges et les matières recyclées. Ça règle le problème de l'effondrement du prix du vierge qui fait concurrence. Mais pour l'instant, ces obligations d'incorporation de recyclé n'existent que pour les bouteilles en plastique. Alors, ça devrait s'élargir à l'avenir à l'acier et aux autres matières parce que clairement, c'est efficace et c'est l'avenir.
Alors, tu te rends compte, Jamy, chaque jour, on produit 1 kilo de déchets par personne. T'imagines ce que ça représente sur un an ?
Au bout d'un an, le calcul est vite fait. Avec tous nos déchets, ménagers, industriels, agricoles, on pourrait remplir un train partant de la Terre et long de 400 000 kilomètres. C'est grosso modo la distance de la Terre à la Lune. à 2 ou 3 poubelles près.
Si on récapitule, il y a des perspectives d'emploi, du volume et des moyens avec la responsabilité élargie des producteurs, la REP. C'est ce dispositif qui fait que celui qui fabrique prend en charge, notamment financièrement, la gestion en bout de cycle des déchets de ses produits. Un principe de pollueur-payeur, pour faire simple, qui nous ramène à Kiki, le grille-pain du début. L'activité du recyclage a donc normalement tout pour être florissante. La France compte d'ailleurs un acteur important dans le domaine, Orea. Il regroupe à l'échelle européenne des PME spécialisées dans l'économie circulaire de produits, comme les huiles de moteur, les pneus, l'aluminium, le cuivre, le zinc ou même, activité rare, le mercure. Mais pour commencer, son PDG, Joël Picard, a tenu au téléphone à préciser un point.
Mais j'insiste que nous faisons plus de régénération que de recyclage. C'est-à-dire que nous sommes un peu à côté de ce qu'on veut bien appeler le recyclage. Nous avons un métier un peu particulier, puisqu'il y a un principe de base qui est de ne pas détruire. Donc, nous partons d'une matière première usagée, nous la trions, nous la nettoyons, nous lui appliquons un traitement industriel avec des usines qui sont en France et en Europe, comme vous l'avez dit, et on retourne à l'état neuf de la matière d'origine. Voilà, c'est notre métier. Donc le recyclage, si vous voulez, c'est un peu différent, puisque recycler, c'est généralement brûler, enfouir ou envoyer en décharge ou envoyer à l'étranger. Nous ne faisons pas ça. Nous ne détruisons pas.
D'accord, donc recycler n'est pas régénérer, c'est très différent.
Absolument. Les grandes sociétés françaises utilisent des communicants qui prennent le nom d'autres activités pour définir les leurs. Ça évite qu'on aille regarder de trop près les choses. Il est important de bien nommer les choses de leur vrai nom. Et donc, nous régénérons et nous ne recyclons pas.
Et chez Orea, la régénération, ça représente quel volume pour quel matériau ?
Je vais vous donner 3 chiffres seulement. Depuis que Orea existe, depuis environ 20 ans, Orea a régénéré 1 350 000 tonnes d'huile automobile usagée qui a été remise directement en utilisation dans votre voiture ou partout. Nous avons régénéré 250 000 tonnes de pneus et nous avons régénéré 700 000 tonnes d'aluminium. Nous faisons bien d'autres produits que cela, mais ça vous donne une idée de l'importance quand même de ce qui est ce métier, alors que nous sommes pratiquement le seul à le pratiquer. Et il y a donc très peu d'intervenants, parce qu'il manque avant tout de déchets à traiter. Quand vous avez des déchets qui partent à l'étranger, il est sûr que vous ne pouvez pas les traiter chez vous. Et en plus, il y a le coût des process industriels qui sont obligatoirement plus élevés, car nous avons besoin d'avoir des usines, nous avons besoin d'avoir du personnel formé, une multitude de réglementations et d'autorisations diverses. Donc il est beaucoup plus rentable de recycler ou de brûler ou d'exporter les déchets que de les régénérer. Donc ces difficultés font que nous sommes pratiquement les seuls à faire de la régénération, mais nos capacités industrielles nous permettraient de doubler demain matin sans aucun problème.
C'est-à-dire que vous me dites qu'en fait il y a du potentiel à régénérer, mais qu'en fait ça n'arrive pas jusque chez vous.
Exactement. C'est-à-dire que comme nous ne collectons pas les déchets nous-mêmes, les gens qui collectent les déchets font leur métier et ils gagnent beaucoup plus d'argent en les envoyant n'importe où, en les brûlant, que de s'embêter avec des usines, des process industriels plus ou moins compliqués, des réglementations multiples, etc., etc. Nous pourrions gagner plus d'argent que nous n'en gagnons en faisant du recyclage plutôt qu'en nous acharnant à les régénérer.
Comment justement ce marché du recyclage aujourd'hui fonctionne ou dysfonctionne-t-il en France ?
Alors, il a un vice fondamental. D'abord, les grandes sociétés sont des sociétés financières et donc elles vont vers un profit idéalisé et par conséquent, elles ne font peu d'industrie. Deuxièmement, l'organisation administrative de la France est telle que vous avez des sociétés qui ont été organisées pour assurer la répartition des déchets, par exemple les REP ou les sociétés de même type. Or, ceux-ci appartiennent aux metteurs sur le marché, c'est-à-dire que les gens qui créent la matière première ou qui créent le déchet à l'origine ou qui le justifient payent pour réorganiser la destruction ou le recyclage ou la régénération de ces produits. Alors, il n'y a aucune priorité appliquée en France à la régénération Et de l'autre côté, quand les gens qui financent le recyclage, etc., trouvent que ça leur coûte trop cher, ils diminuent petit à petit les subventions qu'ils accordent pour collecter les déchets. Ce qui fait que l'ensemble, pratiquement, des sociétés de traitement ou de réglementation des déchets est à l'heure actuelle en difficulté. Les subventions ou les coûts financés par les metteurs sur le marché sont de plus en plus réduits et donc les gens qui travaillent avec ça ont de plus en plus de mal à vivre. Donc c'est un système qui est malheureusement complètement dans les mains des metteurs de marché et en plus de ça, non contrôlés par l'État. Si on prend l'exemple des pneus, les subventions pour recycler les pneus ont été divisées par deux en l'espace de 10 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Belgique, l'organisme a explosé et en France, il n'y a pratiquement rien qui se fait.
Et donc, par exemple, sur ce problème des pneus, que se passe-t-il en réalité ?
Alors, dans le problème des pneus, c'est un problème qui est un peu compliqué, mais quand on suit la ligne directrice, on voit très bien où on va. Les fabricants de pneus ont créé deux organisations pour assurer le traitement de leurs déchets. Il y a une éco-contribution, c'est-à-dire que chaque fois que vous retraitez un pneu, ils sont censés vous donner de l'argent. Cette contribution était de 2,20 € en 2004. Elle est de 1,18 € aujourd'hui. Donc, on donne de moins en moins d'argent pour recycler les pneus. On a un marché global français qui est de l'ordre de 350 000 tonnes. 25% est recyclé, 75% est brûlé. Ça fait un comburant tout à fait intéressant pour les cimentiers. Il n'y a donc plus en France que 3 organisations qui s'occupent des pneus. L'une qui s'appelle Aliapur, qui est constituée peut-être par les 7 premiers fabricants de pneus. Il y a FRP, qui est une filiale de Veolia. Et puis, il y a la société Norauto, qui, voulant respecter ses engagements environnementaux, traite ces pneus pour la plupart chez nous et ils sont donc recyclés. Et grosso modo, pour vous donner une idée, sur un tonnage de 30 000 tonnes mensuelles, il y a 8% dans un pneu qui est du textile, qui part en cimenterie. Il y a 15% du pneu qui est du métal qui repart en sirurgie et le solde du pneu est retraité chez nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 10 ans, on a retraité 250 000 tonnes de pneus. Mais nous sommes les seuls en Europe à avoir la norme CEE pour les produits que nous fabriquons à base de pneus régénérés.
Et qu'est-ce que ça peut devenir des pneus après régénération ?
Pour vous donner une idée, nous fabriquons avec les pneus qui rentrent chez nous, nous fabriquons 14 à 15 millions de roues de containers, les gros containers de poubelles, pas ceux que vous avez chez vous, ceux qui sont généralement en aluminium ou en plastique que vous avez dans la rue, nous en fabriquons 14 à 15 millions par an. Mais le marché global est alimenté en grande partie par les Chinois à l'heure actuelle et il est de l'ordre de 35 à 40 millions. Donc nous ne sommes pas dans des marchés où nous avons du mal à trouver des clients. Dans cette situation, nous pourrions, avec une usine supplémentaire ou deux usines supplémentaires, traiter la quasi-totalité du marché français pour éviter que la plus grande partie des roulettes de poubelles ne viennent de Chine, qui domine à l'heure actuelle largement le marché. C'est un sujet essentiel, mais le gros problème, c'est que les gens qui contrôlent les déchets ne sont visiblement pas du même avis.
Joël Picard, qu'est-ce qui manque dans la législation ou dans les volontés pour que la circularité fonctionne mieux ?
Bien écoutez, il suffit d'appliquer les règles européennes, la priorité à la régénération, c'est même pas un problème d'argent là, hein ? C'est un problème de réglementation. Priorité à la régénération, et puis si on veut faire quelque chose, on peut simplement payer un peu plus cher les déchets destinés à la régénération que par rapport à ceux qui sont destinés au recyclage. L'État peut très bien instaurer une taxe pour les gens qui ne viendraient pas en régénération. C'est aussi simple que ça. C'est largement un problème d'application des règles européennes, tout simplement.
Auréa est l'unique entreprise à régénérer certains produits. Pourquoi êtes-vous le seul sur ces créneaux ?
Écoutez, je vais d'abord vous donner les produits où nous sommes les seuls. Les pneus, le mercure, le cadmium, qui est un produit extrêmement utile en matière de batterie à l'heure actuelle, entre autres, les huiles automobiles. Mais nous recyclons une dizaine d'autres produits. Ça, c'est déjà la première réponse. La deuxième, c'est pourquoi nous ne faisons pas plus ? C'est tout simplement parce que les déchets ne sont pas accessibles sur le marché. Quand vous envoyez vos huiles vous faire brûler en cimenterie, vous les avez plus à recycler. Quand vous avez vos pneus que vous les envoyez en cimenterie, vous ne les avez plus à recycler. Quand vous envoyez à l'heure actuelle du mercure en mine de sel en Allemagne ou quelque part plus loin à l'est, bien évidemment, vous ne pouvez pas régénérer ce mercure. Le problème, il est là. Pourquoi nous sommes le seul? C'est parce que le marché est très étroit, puisque les produits de déchets sont envoyés à l'étranger, brûlés, détruits en tout état de cause.
Dans votre activité essentielle, est-ce que vous vous sentez soutenu?
Pas du tout. C'est très net, pas du tout. Nous sommes tolérés parce que nous sommes un mal nécessaire et on sert de justification à certains. Mais il est bien évident que nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin puisqu'on ne nous donne pas, enfin on les paye les déchets, bien évidemment, mais il n'y en a pas assez sur le marché. Et pourtant la France est le premier producteur de déchets en Europe. Par rapport à ce que nous faisons, je pense que le marché pourrait être multiplié par 4 ou 5 sans difficulté. 80% de ce que nous jetons peut être régénéré.
On l'aura compris, dans le mot valise de recyclage, il n'y a pas toujours la nouvelle vie qu'on espère pour les matériaux. Espérons que l'ambitieuse loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, la loi AGEC, qui a été promulguée en février 2020, va ouvrir une nouvelle voie. Même si le Covid, encore lui, a retardé ses décrets d'application. Merci à Myriam Chauveau des Échos et à Joël Picard d'Oréa. Dans le prochain épisode sur l'économie circulaire, on se penchera sur l'épineux problème des montagnes de textiles et des difficultés de leur recyclage. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple. Et pour suivre l'actualité à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.